La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Économie familiale.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
La saison de la NFL approche. La preuve, le repêchage est déjà derrière nous. Est-ce que votre équipe a bien repêché? Est-ce qu'elle a réussi un coup d'éclat? Notre expert vous répond dans cette édition spéciale de la Zone payante. Une année record pour les carrières alors que 6 QB sont repêchés dans les 12 premiers rangs. Pas une grande année pour les Québécois. Aucun joueur sélectionné. Mais est-ce que la QV 2025 pourrait être mieux? Les actus de la NFL, les questions du public, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone payante. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Nicolas Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de retrouver l'expert du Journal de Montréal et de Québec. Football et combien d'autres choses dans l'entre-saison, Stéphane Cadorette. Salut Steph.
Salut mon vieux, comment ça va?
Très bien. Qu'est-ce que tu couvres là d'ailleurs ces temps-ci, il me semble que...
Hey, tu vois, je peux toucher à n'importe quoi. Moi, j'en ai que j'étais, incroyable. Pour te donner un exemple, j'étais au camp d'entraînement des Capitales hier. Fait que je me promène, je prends ce qui passe. Puis c'est sûr que là, ces temps-ci, il y a eu beaucoup de stocks reliés au repêchage. Puis tu sais, ça continue. Mais écoute, faut être prêt à tout dans ce métier.
Bon, super. C'est un plaisir de te retrouver. C'est un plaisir de retrouver les auditeurs qui sont avec nous cette semaine. Une édition spéciale de la Zone payante qui va porter sur le repêchage. On fait un petit accro à notre pause d'entre-saison pour vous retrouver. C'est un plaisir. Alors, allons-y tout de suite, si tu veux bien, Steph. On va commencer par un portrait un peu plus global et après ça, on ira un peu plus en profondeur si tu le veux bien, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu des talk of the town, là, tu sais, là, quand on parle du repêchage. Rappelle-toi, on avait fait une émission pour les agents libres.
Agents libres, ouais.
Et on disait, ah, ça commence à se parler, là, les carrières, on en voit en deuxième ronde, troisième ronde, mais ça se peut que ça tombe, là. Puis comme de fait, c'est comme si les carrières, c'est devenu quasiment... Il y a le repêchage des carrières et il y a le repêchage des autres joueurs.
Exactement, c'est bien dit ça, parce que je me souviens effectivement, quand on avait abordé la question, on s'était dit, bon, il y en a trois sûrs et certains. On avait parlé de Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May. On disait J.J. McCarthy, fort probablement. Mais à ce moment-là, il n'était pas question des deux autres nécessairement. Le Michael Penix, qui est atterri en 8 à Atlanta, qui a fait énormément de bruit. Et puis Bo Nix en 12 à Denver. Écoute, plus le draft approchait, plus je lisais des informateurs américains, tu sais, qui sont bien branchés, qui habituellement se plantent pas ben, puis qui disaient, ce que j'entends comme bruit, c'est qu'il va y en avoir 6 dans la première moitié de la première ronde. Là, je me disais, ben voyons donc, il me semble que à chaque année, on pense ci ou ça, puis là, finalement, bon, c'était pas si... c'était pas tant la flambée qu'on pensait. Et finalement, c'est arrivé cette année, là. Coudonc, ben, c'était l'année pour ça. Ça m'a fait penser un peu, moi, je me rappelle en 2011, il y a un paquet de QB qui était sorti, là, Christian Ponder, puis des gars qui avaient vraiment pas bien fonctionné, à part Cam Newton. J'espère que ce sera pas ça cette année, mais historiquement, tu sais, c'est pas une proposition qui est mieux que 50-50. Je regardais, j'ai fait l'exercice pour le fun. Je suis remonté, j'en ai jusqu'en 2000. Toutes les QB qui sont sortis dans le top 12, là, pour me fier à un peu ce qu'on a vécu cette année. Il y en a eu 45, puis de ça, moi, j'en compte 23 qui ont eu une carrière, tu sais, soit super ou au moins décente, là. Mais il y en a quand même 22 sur 45 que ça a pas marché, mais pas du tout, là, ou très peu.
Bon.
Fait que on peut s'attendre à ce que cette année, si la moyenne est respectée, t'en as 3 qui vont frapper dans le 1000, puis 3 qui vont soigner dans le bas.
Là, c'était le party à Chicago. On est allé rechercher Caleb Williams, le premier show au total, sans surprise. 1, 2, 3. Peux-tu me parler de ces trois carrières-là? Je sais qu'on en a parlé dans les autres podcasts, mais là, c'est comme officiel. C'est-tu des bons fits? Ils vont-tu commencer? Ils ont-tu des armes pour bien fonctionner la première ou la deuxième année? Peux-tu me les présenter rapidement?
Yes, ben Caleb Williams, pour commencer, peut-être très rapidement sur son style, parce que comme tu disais, on avait déjà abordé la question quelques fois, là, mais c'est un gars très athlétique, qui est capable de faire de la magie. Puis j'aime pas le comparer un joueur hâtivement à un grand joueur, parce qu'il y a tellement de croûte à manger, mais dans son jeu, on voit un peu d'éléments de Patrick Mahomes, au sens où capable d'étirer le jeu, de se promener dans sa pochette, de s'évader de la pression, puis de faire des passes dans des angles impossibles, à contre-courant, de le bras de côté, tu sais, c'est un peu ce genre-là. Puis les Bears, ben, je trouve qu'ils ont bien fait les choses, au sens où on commence à avoir une ligne à l'attaque qui a plus d'allure, là, par rapport à Justin Fields, qui a 2 ans, quand il est arrivé, que c'était un désastre. On a été chercher Keenan Allen dans saison morte. On repêche au 9e rang un autre receveur de premier plan en Rome Odunzi. Il y a DJ Moore qui est toujours là, il y a Cole Kmet qui se développe bien comme ailier rapproché. Fait que tu vois qu'il y a un arsenal autour de lui. La seule question que je me pose concernant Caleb Williams, c'est qu'il y a une tendance à vraiment, comme je te le disais, étirer le jeu longuement, à mettre plusieurs secondes avant de décocher le ballon. Dans la NFL, ça, des fois, ça peut te rattraper. Puis c'était un peu le problème de Justin Fields à Chicago quand même, là, tu sais, d'encaisser plusieurs sacs inutiles. Fait que ça, j'ai hâte de voir. C'est le seul fit que je me pose par rapport à Chicago, parce que sinon, je suis à peu près convaincu que pour une fois, même si c'est un cimetière à QB, ben, ils ont trouvé leur homme.
Washington,
Jaden Daniels, ben ça, c'est le plus grand athlète là, de cette QV-là. C'est le genre...
Écoute, là, je comprends que c'est du bruit, là, puis c'est la saison du bruit, mais quelques jours avant le repêchage, plusieurs supposés directeurs généraux ou gens de la NFL sous couvert d'anonymat disaient « Je prendrais Daniels avant Williams. »
Oh, ouais, ça, j'ai pas vu ça beaucoup. Mais effectivement, qu'il y a toujours quelqu'un quelque part, là, une voix qui sort des sentiers battus. Là. Je te dis pas l'inverse, mais je l'ai pas vu beaucoup personnellement. Mais Daniels, c'est le gars qui peut courir et courir avec le ballon, là, extrêmement rapide, explosif. C'est un gars qui a un bon bras aussi, tu sais, qui excellait dans les passes en profondeur. Faut dire une chose, par exemple. Il y avait 2 de ses receveurs qui sont sortis en première ronde du repêchage, là. Brian Thomas avec les Jaguars et Malik Nabers avec les Giants. Tu sais, 2 talents de première ronde avec qui il travaillait. Ça peut t'aider à bien paraître. Fait que j'ai hâte de voir, là. Est-ce que c'est Daniels qui faisait ses receveurs?
Dans la NFL, en théorie, il y a tous des bons wide receivers, mais je comprends ce que tu veux dire, là. Est-ce qu'au niveau collégial, c'est ça qui te permettait de bien paraître?
C'est ça. Puis à Washington, ben là, tu te retrouves dans une position où t'as de bons receveurs. Par contre, c'est pas si évident du côté de la ligne à l'attaque de Washington. Là, il y a du travail à faire de ce côté-là. Donc, peut-être que Daniels, cette année, va s'en remettre surtout à la course. Puis le seul truc, moi, qui me fait un petit peu peur dans son cas, c'est que c'est pas le corps arrière le plus costaud, là, le plus bâti. Est-ce que son frame va encaisser le coup à un moment donné? Tu sais, va falloir qu'à long terme, cette année, c'est correct si c'est ça la stratégie pour faire en sorte qu'il s'adapte tranquillement. Fine. Mais à long terme, va falloir qu'il mise aussi sur son bras.
OK, rapidement, Drake May, si tu veux bien passer aux Pats, là, est-ce que les Pats, qui ont eu plusieurs offres apparemment pour échanger leur choix, leur troisième choix, ils avaient l'air pas mal alignés vers Drake May. On le compare un peu à Josh Allen. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Au sens où peut-être moins spectaculaire que Josh Allen, là, à mon humble avis, mais je comprends d'où viennent les comparaisons. Là, c'est que c'est un gars qui rentre dans la NFL. On dit qu'il va devoir travailler un peu sa mécanique, son jeu de pied. Sa précision est pas à son summum. Mais en même temps, Josh Allen, autant que Drake May, arrive d'université. Tu sais, Josh Allen, lui, c'était Wyoming. Drake May, c'est North Carolina, où il y avait pas nécessairement beaucoup de weapons autour de lui. Là. Il y avait pas nécessairement beaucoup d'armes de grande qualité. Donc, est-ce que c'est ça qui explique un peu le manque de précision? Il y en a beaucoup qui disent Drake May, pour lui rendre service, faut l'asseoir pendant un an. Bon, ça reste à voir parce que je pense que les Pats vont être assez impatients de changer leur image puis de
peut-être de plaire 8 games, à leurs partisans. Mais pas un an. Là.
C'est ça, exactement. Donc, tu sais, là, ils ont signé Jacoby Brissett pour l'instant. Il est capable de tenir le fort pendant quelques matchs. Ouais, mais là, lui, c'est sa plus grande qualité, Jacoby Brissett. Ça. C'est genre, c'est un bon gars dans le vestiaire. Là.
Ouais, c'est ça, exact. Hey, tu le veux, tu y payes. Je sais pas comment il a fait d'argent dans sa vie, là, mais pour être un bon gars dans le vestiaire, puis allumer les lacets avec un lighter, puis rire. Là.
C'est une bonne qualité à avoir, finalement, si tu veux être riche.
Ben oui.
Mais non, Drake May, c'est ça. C'est de là viennent les comparaisons que vous voyez avec Josh Allen. Tu sais, c'est un gars qui peut être super efficace sur des longues passes. Puis, le stock court à intermédiaire, ça va peut-être être plus difficile un peu. Donc, à voir. Mais les Pats, là, qui, comme tu as dit, un dernier mot sur ça, qui voulaient clairement pas le laisser aller parce que il y a beaucoup, beaucoup de bruit à l'effet que les Vikings, entre autres, les Giants, étaient très intéressés puis qui ont jamais pu matcher la demande là, que les Pats faisaient là, pour en termes de premier choix.
On en reparlera un petit peu pendant les questions du public. Il y a des gens qui posent des questions sur d'autres carrières, entre autres Michael Penix, puis on va reparler aussi de J.J. McCarthy.
Ben, j'espère.
Je sais, toi, t'es content.
J.J.
On va y revenir.
Hey, moi, Jean-Nic, j'ai trop hâte que J.J. lance à J.J. Ça va être merveilleux.
C'est vrai. Ça va être beau, mais ça va seulement être un titre une fois.
Oh! Déjà insolent. Un spécial est déjà insolent.
Attends, je dis pas que ça va juste arriver une fois. Juste qu'une fois que le titre va être fait, on peut le refaire.
J'aime ça, ta façon de te reprendre sagement. C'est vrai.
Les receveurs de passe. Là, écoute, il y en a beaucoup encore sur le marché des joueurs autonomes. On se disait, on peut échanger, tu sais, les Bills ont échangé Stephon Diggs en se disant, il y en a des wide receivers. D'ailleurs, là, lui qui sont allés chercher, là, je suis en amour avec lui, là.
Ah ouais, t'aimes bien qu'il y ait
Coleman. Le Coleman, là.
Ah, c'est sa conférence de presse, c'était du bonbon, là.
Écœurant. C'est la meilleure conférence de presse que j'ai vue cette année, là. C'est bon, là. Il est drôle, il est fin, en tout cas. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais, parle-moi-en un petit peu, là, les receveurs de passe, là. Il y a eu, beaucoup de d'espoir. On sait que Marvin Harrison, c'est beau, il n'a même pas fait les combines, le gars était sûr d'être pris top 5. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a eu de fantastique sur. Y a-t-il un nombre record? Y a-t-il un nombre record en première ronde? Est-ce que ça a livré finalement là, les wide receivers?
Ben, les wide receivers, tu parles de record, ça égale la marque de 2004. 7 receveurs là, qui sont sortis en première ronde quand même. On voit pas ça souvent, là, ça faisait 20 ans en fait.
Je pense qu'il y en a eu 4 de suite après ça en début de deuxième.
Ben c'est ça. C'est comme si c'est pas fini. Là. Il y a eu la manne record en première ronde, puis après ça, t'en as 4 autres qui sortent assez tôt là en deuxième ronde. Fait qu'écoute, c'était vraiment l'année des receveurs. On l'avait dit, tu sais, c'était connu. C'est pas quelque chose qui a étonné là, personne. Mais maintenant, j'ai hâte de voir parce qu'il y en a beaucoup. Tu parlais tantôt que certains aimaient mieux Jaden Daniels que Caleb Williams. Les receveurs, c'est pareil. Là. Harrison est comme considéré comme une valeur sûre, mais plusieurs aiment mieux ce qu'amène Malik Nabers. Là. Peut-être plus d'explosivité. L'aspect down the field, là, tu sais, c'est une menace vraiment verticale. Fait que ça, j'ai hâte de voir avec les Giants. Est-ce que c'est lui qui peut enfin lancer pour de bon Daniel Jones? On sait que Daniel Jones, après une saison 2022, prometteuse, s'est vraiment calmée en 2023 avant de se blesser. Fait que ça va être intéressant. Puis je parlais d'Odunze tantôt à Chicago. Odunze, c'est un receveur vraiment différent des deux autres au sens où il y a bien des années, il aurait pu être top 1. Là cette année, avec Harrison puis Neighbors, il est comme tombé à mauvaise place au mauvais moment. Mais Odunze, c'est plutôt le gars qui se sépare pas nécessairement de ses couvreurs, mais il va exceller là, dans les attrapés contestés, dans le trafic. Un gars très physique, un peu comme Keon Coleman que tu parlais avec les Bills. Là, c'est un peu le même style, un peu plus costaud. Puis deux intrigues dont je veux parler dans cette première ronde-là aussi. Brian Thomas avec les Jaguars. Encore là, il y en a qui adorent Malik Neighbors, mais il y en a qui disaient, je pense qu'au niveau NFL, Brian Thomas pourrait être supérieur à Neighbors. Fait que tu vois le genre de talent qu'il y avait cette année disponible un peu partout, c'est impressionnant. Puis je m'en voudrais de pas mentionner Xavier Worthy avec les Chiefs. Ouais. Ça, là, si ça te fait pas peur, là, c'est quelque chose. Un gars qui a couru 4,21 secondes le 40 verges. Pour ceux qui se torchent des 40 verges ou qui ont aucune idée ça veut dire quoi 4,21 secondes, sachez que c'est le record de tous les temps. Fait que vous avez juste besoin de savoir ça. C'est un marchand de vitesse, mais qui est capable de courir plusieurs tracés. C'est pas un gars que tu dis « Ok, cours dans le fond, puis je te lance là, comme quand on avait 12 ans. » Il sait faire beaucoup plus de tracés, il est beaucoup plus technique. Là, il y en a beaucoup qui aiment le comparer à Tyreek Hill. Moi, je préfère le comparer à DeSean Jackson. Pour une raison, entre autres, c'est que Tyreek Hill, même s'il est petit, il est quand même trapu. Tu sais, c'est un gars de 200 livres.
Xavier Worthy, là,
c'est 165 livres, là, Xavier Worthy. Écoute, c'est un petit frame. Là. Le dernier petit receveur qu'on a vu comme ça en première ronde, là, ce serait probablement Devontae Smith, je pense, avec les Eagles.
Puis Xavier Worthy, en plus, il a 21 ans. Là. Il est vraiment jeune.
Mais tu sais, tu l'imagines dans cette attaque-là. Ouais, effectivement, mais il prendra pas 30 livres non plus. Là.
Non.
Mais dans cette attaque-là, ça peut tellement faire mal. Tu sais, on l'a dit combien de fois, là.
Il y en a, c'est ça l'affaire. Le problème avec les Chiefs depuis deux ans, c'est pas qu'ils ont pas des bons wide receivers, puis c'est pas qu'ils sont pas rapides, là. Ils sont rapides, Rice, puis tu sais, c'est juste que...
Ouais, mais effectivement. Puis c'est drôle que tu dis ça, parce que Xavier Worthy, s'il y a une affaire qui lui a été reprochée dans sa carrière universitaire à Texas... c'est qu'il y a eu certains drops de concentration. Là. Il y en a eu quelques-uns, fait que j'ai hâte de voir. Mais côté vitesse, tu parlais des receveurs des Chiefs qui étaient quand même rapides. J'ai rien contre Rashee Rice. J'ai rien contre les autres qui sont passés par là, que ce soit MVS ou d'autres, mais c'est pas cette
vitesse. Non, ça n'a rien à voir.
Là, t'es d'un autre stratosphère.
Terminons en parlant, s'il vous plaît, des Québécois qui, cette année, malheureusement, n'auront pas fait grand bruit. Là, pendant. On va parler, si tu veux bien, deux choses. On va parler de qu'est-ce qui s'est passé en 2024. Il y en avait-tu un qui était on the verge de peut-être faire un choix? Y a-tu quelqu'un qui a eu une visite? Après ça, peut-être checker si 2025, il y a quelque chose. Puis finalement, je sais qu'il y en a qui vont avoir des essais. Avec. Vas-y, je te laisse parler.
Ben c'est ça, pas de Québécois repêchés cette année, c'est pas une surprise majeure. Tu sais, on avait parlé du secondaire de Memphis, Geoffrey Quentin Arcu. Écoute, il y avait plus de chances quand même qu'il soit invité comme agent libre. Puis finalement, ce qui se passe, c'est que il est invité, il signe pas un contrat d'agent libre, mais il obtient un essai avec tes Dolphins.
Ben Jean-Luc. Oui.
Fait que ça, c'est au minicamp des recrues 10 au 12 mai à Miami.
Je comprends qu'il est linebacker. Il est Mike, lui, c'est ça?
À l'intérieur.
Fait que je sais que les Dolphins n'ont pas repêché. Fait que c'est peut-être un bon fit pour dans un practice squad ou...
Lui, c'est ce qu'il me disait quand j'y ai parlé après le repêchage. Il me dit, j'ai choisi Miami. J'avais quelques options, mais je regardais, il joue une 3-4, donc 4 secondaires sur le terrain. Deux à l'intérieur.
Deux edge, mais c'est ça. Personne au centre qui a été repêché.
C'est ça. Ils sont surtout équipés en edge. Il me dit ils n'ont pas repêché de secondaire intérieur. Fait que lui, pour lui, il voyait une opportunité. Mais écoute, je veux juste être réaliste. Les joueurs qui obtiennent comme ça des try-outs au minicamp des recrues, ça donne pas nécessairement souvent des contrats, mais lui, ça l'empêche pas d'avoir un pied dans la porte de la NFL. C'est tout ce qu'il demandait, une opportunité. Il l'a obtenue. En ce sens-là, garde, son rêve se réalise, puis là, ben, c'est à lui maintenant d'impressionner l'état-major, mais il sait que ça va pas être facile. Puis on a un autre Québécois qui a obtenu un essai, un batteur, Vincent Blanchard du Rouge et Or. Lui, c'est drôle son parcours parce que il a payé de sa poche pour aller à un camp très réputé pour les batteurs en Arizona avec un spécialiste qui a coaché 13 ans les unités spéciales dans la NFL. Puis c'est lui qui avait gagné ce camp-là. Il avait réussi un botté de 60 verges, Blanchard. Puis ça lui a valu une invitation, tout comme Geoffrey Quentin, mais lui, c'est avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, les mêmes dates, le 10 au 12 mai. Ça va être intéressant à surveiller parce que rappelle-toi que l'année passée, le batteur Ryland des Patriots a pas été extraordinaire. Tu sais, ça a été quelque chose comme 16 en 25.
Un joueur repêché, si ma mémoire est bonne en plus.
Ben oui, il me semble qu'ils l'ont pris en quatrième ronde de mémoire. Ah ouais. Fait que il y a quand même une occasion, là, sans dire il va le déloger, de se faire valoir, de se faire un nom, d'acquérir des contacts. Fait que c'est deux petits intérêts là, pour nos Québécois. Il n'y a pas plus là, pour l'instant.
Es-tu trop tôt pour parler de 2025? Tu vois-tu quelque chose dans ta boule de cristal?
Ouais, j'ai rien sur le radar pour l'instant. T'sais, ça va être à examiner dans les prochains mois. Pour l'instant, comme je te dis, rien. Mais écoute, je pourrais te revenir dans deux mois en disant « Oups, il y a tel Québécois qui impressionne à tel endroit. »
Parce que lui qui a signé à Alabama, il est trop jeune.
Non, il est trop jeune. Il a pas commencé à jouer. Il faut que tu ailles jouer minimum 3 ans là au niveau universitaire. C'est ça. Fait que c'est pour ça. Il y en a une batch qui s'en viennent. Il y en a une batch qui commence. Mais tu sais, quand t'arrives, tu sais pas comment ça va finir. Puis 3 ans, ça peut être très long. Tu peux te transférer d'université. Il peut arriver plein d'affaires. Fait que pour l'instant, il y a rien qui scintille, là, mais à surveiller.
OK, on s'arrête. On revient tout de suite. Bougez pas.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous êtes sur la Zone payante, un podcast de Cube Radio en compagnie de Jean-Nicolas Gagné, moi-même, et Stéphane Canorette, lui-même.
Yes, sir.
Bon, là, écoute, c'est de la job, là, ce que je te demande. Là, j'aimerais
c'est,
ça.
Ben, c'est toujours de la job, ce que tu me demandes.
Ouais, monsieur, mais t'as tout ça dans la tête, là, tu te sors ça. Normalement, t'as même pas besoin de réfléchir, ça sort tout seul. Mais là, par exemple, je vais te demander quelque chose, il va falloir que tu te capsules. Tu fasses okay. des
on se limite dans le temps.
Exactement. Yes.
Bon, on va appeler ça une analyse éclair.
Ouais. Okay? Parce que là, on passe toutes les équipes. Là. On va passer toutes les équipes. Et là, j'aimerais ça. Toi, tu veux-tu faire des A, B, C, D, des 80%, 85%, 25%, 3 rôles.
Ah, moi, j'haïs ça, les notes à 3 jours du repêchage.
Hey, là, surtout que là.
Il y en a qui vont nous remettre d'en face dans 5 ans. Oui. Hey, vous aviez dit que telle carrière serait pourrie. Hey, mon frère m'a envoyé de quoi cette semaine des analystes qui disaient les Chiefs, ils leur donnaient des C puis des D à cause de Patrick Mahomes. En 2017, un gars clairement pas prêt pour la NFL. J'ai peur de ça, mais écoute, on va le faire. Si ça te fait plaisir, on va le faire.
Mettons, parce que tout le monde, là, justement, à cause de ça, ils prennent plus de chance, là. Ils m'ont dit, là, des A, plus, A, moins.
Il y en a pas bien.
Non, mais tu sais,
c'est ça. Il y a pas beaucoup de F non plus, là.
C'est ça. Tout le monde se tient entre, genre, B, moins, puis A, là, tu sais, là. Ouais. C'est comme, il y a plus personne, là, qui met ça, là, des D, puis des F, là. Fait que, justement, pour pas se leur faire mettre d'en face. Mais, c'est quand même important de, comme dire, dis-moi, on va le dire, dis-moi, bon draft, moyen draft, mauvais draft. Pour okay. Des mauvais, par exemple. C'est ça mon défi. Ouais, c'est le défi que je te lance. Okay. On va faire ça par ordre alphabétique, mon vieux. On va commencer okay. par les Cards qui ont été donc les premiers à prendre un joueur qui n'était pas encore arrière pendant le repêchage. Ils sont allés chercher Marvin Harrison. Je te demande, est-ce que c'est un bon repêchage, un moyen ou un mauvais? Puis je te demande quel est le coup d'éclat ou quelle est la phrase à retenir, le joueur à retenir là-dedans.
Ben moi, pour les Cards, c'est un bon draft sans contredit. Tu sais, Harrison, évidemment, qui est la valeur sûre du draft. Mais j'ai le goût de te parler aussi très rapidement. Porteur de ballon, Trey Benson, sélectionné au 66e rang.
Ça lui sort de Florida State. Sorte, là, en plus.
Ouais, effectivement, il faut en parler un petit peu parce que lui, il a vraiment une chance de déloger James Conner éventuellement. C'est un gars très dynamique, qui peut à peu près tout faire sur le terrain. Fait que c'est la sélection que j'aime, évidemment, à l'extérieur de Marvin Harrison.
Donc, bon draft, les Cards, 12 picks hein, cette année, quand même pas mal. Ouais, on va aller voir picks. Les Falcons, on va en parler un petit peu plus blondement tantôt, si tu veux bien, de Michael Penix qui va aller rejoindre Kirk Cousins. Est-ce que les Falcons sont un bon, un moyen ou un mauvais draft et qu'est-ce que tu retiens de leur draft?
Pour moi, c'est mauvais parce que je trouve qu'il y avait un club pour donner de l'aide tout de suite, là, tu sais, avec Kirk Cousins, puis il y avait un club comme en ascension. Puis là, t'as un choix qui est vraiment important en 8, puis tu prends un gars qui t'aidera pas avant 2-3 ans. Je trouve pas qu'ils ont nécessairement réglé leur problème de pass rush. Tu sais, bon, Braylon Trice en troisième ronde, c'est un choix intéressant de Washington. Il peut se développer comme un bon edge, mais en dehors de ça, je vois pas nécessairement là, des joueurs d'éclat là-dedans.
Les Ravens sont allés chercher un DB au 30e choix total. Est-ce que c'est un bon, moyen, mauvais draft?
C'est un bon draft, les Ravens, puis c'est ce qu'on dit à chaque année. C'est une des équipes qui draft le mieux année après année. Nate Wiggins, le demi de coin le plus rapide de cette QV-là. Tu sais, je pense que c'est intéressant là, quand tu joues dans une division avec les Bengals, notamment, qui ont de très, très bons receveurs explosifs. Puis, ils ont repêché un autre corner en quatrième ronde, TJ Tampa, qui était coté là, très, très haut. Moi, je trouve ça intéressant quand une équipe en prend deux comme ça, parce que s'il y a un flop, t'as une chance de te reprendre. On a adressé le besoin de la ligne à l'attaque aussi. Roger Rosengarten, un bloqueur en deuxième ronde, donc ils ont bien fait leur devoir.
Parle-moi des Bills qui n'ont pas eu de choix en première ronde, mais qui ont quand même été chercher 10 choix au repêchage des Bills.
Ouais, les Bills, moi je dirais moyen. Keon Coleman, je sais qu'on adore sa personnalité, tu sais. Mais j'ai hâte de voir s'il va être capable de créer de la séparation dans la NFL. C'est vraiment ce qui m'intrigue. Ça a l'air que c'est le gars que Josh Allen voulait. Donc, potentiellement que lui, il voit vraiment quelque chose en lui. Mais il va avoir des grosses chaussures à remplir, Keon Coleman. Sinon, écoute...
C'est le seul qu'ils sont allés chercher en plus. Hein? C'est bizarre, ça.
Ouais, puis les autres joueurs, il y a pas nécessairement des coups d'éclat. Cole Bishop, un demi défensif, c'est évident qu'ils vont avoir besoin de lui rapidement parce que t'as perdu Micah Hyde, t'as perdu Jordan Poyer, t'as perdu Tre'Davious White. Donc Cole Bishop va être le joueur à surveiller avec Keon Coleman dans cette QV-là.
Les pauvres Panthers qui, eux autres aussi, se sont retrouvés à regarder les Bears prendre leur choix repêchage cette année. Est-ce qu'ils s'en sont quand même bien sortis?
Ils ont amené des éléments intéressants en attaque avec avec trois de leurs quatre premiers choix. Tu sais, Xavier Leggett, receveur, Jonathan Brooks, porteur, et le tight end, Jatavion Sanders. Leggett, moi, j'ai des doutes parce qu'il a été 0-0-0-0 productif pendant 4 ans. Puis là, hop, il a explosé à sa 5e année. Moi, dans ce temps-là, ces joueurs-là me font peur. J'ai hâte de voir là, dans la NFL. Puis Jonathan Brooks, je l'adore, porteur de ballon, là. Vraiment, vraiment, c'était le porteur à aller choisir pour eux. La seule chose, faut se le garder en tête, c'est qu'il s'est blessé, lui, torn ACL, cette année. Donc, possiblement que sa saison 2024 sera pas sa plus efficace, mais à long terme, c'est un très bon joueur. Donc, pour moi, les Panthers, je les mets dans la catégorie mauvais, mais ça pourrait nous surprendre.
Bon, les Bears ont eu seulement 5 choix de repêchage, mais évidemment, ils sont allés chercher 1 et 9. Ouais. QB puis wide receiver, mais est-ce que tu as d'autres choses à dire sur leur draft?
Ben, j'ai pas le choix de dire que c'est un très bon draft. On va passer rapidement parce qu'on a parlé des deux cas. Mais écoute, la seule chose dans leur draft que j'aime moins, un punter en quatrième ronde, Torrey Taylor. J'ai rien contre les punters, j'ai rien contre ça, mais je trouve toujours ça tôt quatrième ronde pour un punter. Mais sinon, écoute, quand tu sors d'une première ronde avec Caleb Williams puis Rome Odunze, tu peux pas te poser beaucoup de questions.
Les Bengals, qu'est-ce que t'en dis?
Bon draft pour moi. Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur le bloqueur Amarius Mims parce qu'il a été partant pendant seulement 8 matchs. C'est un énorme gaillard de 6 pieds 8, 350 livres. Mais j'aime aussi, moi, qu'en deuxième ronde, il y avait besoin d'un plaqueur, les Bengals, parce qu'ils ont perdu DJ Reader. Sont allés chercher Chris Jenkins de Michigan. Je l'ai vu jouer en personne. Très, très bon joueur de football. Puis, on a pris une chance. Ça, c'est un nom à retenir. Le receveur d'Alabama, Jermaine Burton. Ouf! Un dangereux, mais c'est un gars qui peut avoir une tête brûlée. Là. T'sais, c'est un gars qui a eu beaucoup d'incidents hors terrain. Très dur à coacher. On sait que c'est le style Bengals un peu. C'est arrivé souvent qu'ils ont eu des joueurs à succès. Ouais. Un peu comme ça. Jermaine Burton, retenez ce nom-là parce qu'il peut être vraiment dangereux sur le terrain, receveur d'Alabama.
Les Browns, seulement 6 choix. On sait que l'échange avec notre ami Masso a coûté cher un peu en choix repêchage. Est-ce qu'ils s'en sont servis quand même bien de leur choix repêchage?
C'est drôle. Moi, je vois partout que les experts cotent le repêchage des Browns comme un des moins bons. Moi, j'ai aimé ce qu'ils ont fait avec ce qu'il y avait. Michael Hall Jr., c'est un bon plaqueur d'expérience à Ohio State. Je pense qu'il va les aider. Zach Zinter, avant de se blesser à Michigan, j'étais là, c'était le match contre Ohio State. C'était un des bons gardes dans la NCAA. Là, c'est juste que c'était une blessure très, très, très difficile à la jambe. Est-ce qu'il va s'en remettre rapidement? Je le sais pas, mais à long terme, il va rendre service aux Browns. Puis Jamari Trash, un receveur de Louisville. Ouais, c'est ça. Mais je me demande s'il est parent. Est-ce que tu te souviens de James Trash?
James Trash, ouais.
Je sais pas s'il est parent avec lui. J'ai pas vérifié. Je suis désolé, là, mais ça avait été quand même un receveur
après
qui avait
moi,
connu
nos
un certain succès.
Les receveurs vont s'en remettre si t'as pas vérifié. Je peux checker aussi.
Ouais. Mais James Trash, qui est un receveur qui a quand même un certain potentiel, fait que moi, je les mets plutôt dans la catégorie moyen.
OK, on s'en va à Dallas. Dallas, on s'entend que leur entre-saison, c'est pas ce qu'ils espéraient, mais en tout cas, les partisans, peut-être que l'état-major est bien content. Qu'est-ce que tu penses de leur repêchage?
Moi, j'ai pas aimé ça. Pas de porteur de ballon. On ramène Ezekiel Elliott.
Terrible, ça.
Je comprends pas. Ezekiel Elliott a l'air plus fini que le plus fini des running backs que j'ai vu dans les dernières années. Là. Une moyenne de 3.5 verges avec les Pats l'an dernier. Donc, t'as pas de porteur de ballon. Tu ressors de là avec un bloqueur en première ronde. C'est loin d'être mauvais, Tyler Guyton, mais on l'identifie plus comme un projet. Alors que je pense que les Cowboys ont besoin d'aide sur leur ligne à l'attaque maintenant. Non, j'ai pas aimé là, ce qui s'est passé à Dallas.
On s'en va à Denver. Là. Denver, eux, ils ont quand même shaké les colonnes du temple. Là. On s'entend avec l'acquisition de Bo Nix en 12e. Ils pouvaient pas recommencer la saison avec Zach Wilson. Ben, en fait, c'est sûrement ça qui va arriver. Le pire.
Mais là, les fans des Broncos vont m'en vouloir. Moi, c'est parce que j'ai comme un biais. Bo Nix va pas me chercher ben. C'est un gars qui en a arraché pendant des années à Auburn avant de bien paraître à Oregon dans un système qui faisait naturellement bien paraître le corps arrière. C'est un gars qui a fait énormément de bubble screen, des passes voilées aux porteurs de ballon, des passes aux receveurs derrière la ligne de mêlée. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Sean Payton, c'était un petit peu ça avec Drew Brees. » Quand même pas, là, tu sais. Il attaquait quand même plus le milieu de terrain. Je suis pas convaincu par Bo Nix, puis je suis encore moins convaincu par le fait qu'ils l'ont pris 12e au total. Le joueur que j'aime dans leur QV vraiment, moi, c'est le receveur Troy Franklin, qui sont allés chercher en 102e. J'aime ça en plus parce qu'il jouait à Oregon avec Bo Nix. Donc, il y a un élément de familiarité qui s'installe déjà entre les deux. Ça, ça peut aider là, au prochain niveau. Puis Troy Franklin, c'était clairement pas un talent de quatrième ronde. Tu sais, moi, je le voyais sortir en deuxième ronde personnellement. Donc, bon coup de ce côté-là. Mais au final, moi, je suis pas assez vendu Bo Nix pour parler d'un bon repêchage.
Seulement 6 choix au repêchage pour les Lions, qui en ont peut-être pas tant besoin. Déjà une bonne équipe, est-ce que ça s'en améliorerait?
Oui, j'adore ce que les Lions ont fait. Je veux juste revenir une seconde sur les Broncos. Audric estimé un porteur de ballon, 147e. Lui, je pense qu'il va faire la job. Les Lions, ouais, 2 demi de coin en partant, j'adore. Parce que s'il y a une lacune du côté des Lions, là, c'est la couverture contre la passe. Terrion Arnold, Alabama, qui sort en 24. Pour moi, c'est la surprise de la première ronde, là, à part Michael Penix en 8. Mais Terrion Arnold, c'est un... Les analystes...
Ils ont même tradé up là, pour aller chercher ce même...
Ben là, c'est parce que rendu en 24, ça a plus d'allure qu'il soit là. Arnold, les analystes...
C'est même pas le numéro 1 DB, là. Ouais, c'est ça, là.
Ben, c'est parce que c'était lui ou Quinion Mitchell de Toledo. Les analystes n'étaient pas d'accord, tu sais, c'est comme ah, moi j'aime mieux lui, il est plus technique, moi j'aime mieux lui, il est plus athlétique. Mais qui se ramasse là en fin de première ronde à Détroit, c'est vraiment un bon coup. Puis on a pris Ennis Rakestraw en deuxième ronde aussi, 61e. Ça, vraiment, ben, tu sais, comme je disais tantôt, c'est le même principe là, que l'autre équipe dont on parlait. Tu rates ton coup, tu as une chance de te reprendre.
Je veux juste souligner. Ça, double down dans un repêchage. Maintenant, les Packers de Green Bay, eux, qu'est-ce que tu as pensé de leur repêchage? Une équipe qui est aussi en ascension. Est-ce qu'il y avait besoin de joueurs urgemment?
Ils ont travaillé sur leur ligne à l'attaque avec Jordan Morgan, un bloqueur qui peut jouer garde aussi. Donc, un joueur qui peut être polyvalent, là, j'aime ça. Un secondeur en deuxième ronde, Jaren Cooper, qui était là un secondeur intérieur, là, on s'entend, qui était pas mal coté là, comme le plus intéressant, là, le plus convoité, là, disons, à sa position. Fait que ça aussi, j'aime ça. Puis, on a attaqué la position de safety avec Javon Bullard en deuxième ronde aussi. Donc, c'est pas mauvais ce que Green Bay a fait. Il n'y a pas nécessairement de grands coups d'éclat qui renversent. Mais je pense qu'on a attaqué les besoins.
À 11 joueurs, tu finis par en avoir au moins 2-3 dans le lot qui vont être capables d'aider ton équipe.
Puis on n'a pas le choix de respecter généralement la capacité de Green Bay à se bâtir des belles équipes. Là, fait que...
On s'en va à Houston. Eux aussi, là, leurs partisans sont très eager de voir leur équipe performer cette année. C'est pas l'attaque qui ont aidé beaucoup, par exemple.
Non, mais en même temps, l'attaque, tu venais d'aller chercher Diggs, t'as bien repêché l'an passé en attaque, t'as des bons receveurs, un bon ailier rapproché, sont allés chercher Joe Mixon dans le champ arrière. Il n'y avait plus grand-chose à aller renforcer à l'attaque du côté de Houston. Il n'y avait plus de choix de première ronde. Fait que dans le contexte, ils ont pas mal fait. Les Texans, je vais le mettre dans moyen parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, puis il n'y avait pas de choix de première ronde. Mais il y a deux joueurs là-dedans là, que je remarque. Kamari Lassiter, un demi de coin en 42e. Il y en a plusieurs qui le voyaient, genre fin de première ronde, début deuxième. Donc, il a été repêché, là, je te dirais, dans un spot logique. Puis Cade Stover, moi, c'est un ailier rapproché que j'avais remarqué à Ohio State. On a parlé beaucoup de Brock Bowers cette année dans la NCAA, mais Cade Stover était possiblement là. Un des bons là, derrière Brock Bowers, là, je sais que les Texans sont déjà setés au poste d'ailier rapproché avec Dalton Schultz, mais quand même, ça va être un joueur à surveiller, peut-être pas cette année, là, mais dans les années à venir.
Les Colts ont...
Très bon.
Ouais.
Ah ouais, vraiment très bon. Moi, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Laitu Latu, en première ronde, c'est un gars qui normalement serait sorti top 8, top 10. Mais il y avait un historique médical, une grosse, grosse blessure au cou subie il y a quelques années qui l'avait même forcé à prendre sa retraite dans la NCAA. Il est revenu au jeu à UCLA. Il a très, très bien performé, mais il y avait des équipes encore qui continuaient de douter. Tu sais, ah, dans la NFL, ça peut-tu ressortir une blessure comme ça? Est-ce que ça peut raccourcir sa carrière? Mais côté production, c'est vraiment un ailier défensif là, qui va aller chercher des sacs à profusion. Puis en plus, il y en a beaucoup qui leur mettaient un receveur en deuxième ronde, mais non, sont allés chercher, sont en première ronde, c'est-à-dire, mais sont allés le chercher en deuxième avec Adonai Mitchell de Texas, lui aussi. Il jouait avec Xavier Worthy. Puis il y en a plusieurs qui pensent que dans la NFL, il pourrait être plus complet. Plus, il est beaucoup plus physique, là, beaucoup plus gros, imposant. Donc, Adonai Mitchell, un autre nom à surveiller là, du côté des Colts.
JJ, Jacksonville Jaguars, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres, nos amis à Jacksonville?
Ben, je te parlais tantôt de Brian Thomas Jr., le receveur de LSU. Fait que c'est leur gros coup d'éclat. En 23, moi, j'ai pas de problème avec ça. Là, c'est une belle valeur rendue là. Par contre, par après, moi, je remarque rien là, qui me saute aux yeux, là, je te dirais.
Okay. Alors,
une coupe de demi-défensif, on va passer, tu sais, un batteur plus tard dans le draft. Il n'y a rien qui m'a impressionné nécessairement dans leur QV.
Les Chiefs, eux, c'était quoi leur... À part les wide receivers, ils ont-tu comblé des trous pour être encore meilleurs que ce qu'ils sont là?
Ouais, ben on a parlé de Worthy, revenons pas là-dessus, mais Kingsley Saumaita, un bloqueur de BYU en deuxième ronde, t'sais, pour eux, c'est clairement un besoin, là, les Chiefs, la ligne à l'attaque, clairement. Faut pas exagérer, c'est pas comme si c'était une lacune majeure, mais je te dirais que s'il y avait un élément l'an passé, à part la position de receveur, c'était celle de bloqueur. Bon, tu
vois, quand même aller en chercher trois, là.
Ouais, c'est ça, effectivement, il y en a eu d'autres par la suite.
Sur sept choix.
Fait que tu vois, ils font le travail. Puis Jaden Nix, c'est un demi-défensif, ça. Bon, il peut se promener un peu. Je pense qu'il va surtout jouer safety dans la NFL. Mais tu vois, c'est un autre bon coup, je pense, là, pour une position là, comme ça, 133 pour les Chiefs. Les Chiefs qui continuent de bien faire avec les choix qu'ils ont, là, malgré leur positionnement qui est pas avantageux.
Raiders! Hey, ça va être qui leur carrière partant, les Raiders, cette année? Là? Ils en ont pas repêché un en plus.
On s'enligne pour Gardner Minshew.
C'est pas non, là, mais ça sera pas et aussi non plus.
Non, tu sais, fait que ça va être lui ou O'Connell, mais fort probablement Minshew au moment où on se parle. Eux autres, le gros coup d'éclat, c'est Brock Bowers. C'était clairement l'ailier rapproché que tout le monde aurait voulu, là. Puis là, écoute, moi, sur le coup, je me suis dit, ouais, mais ils ont repêché Michael Meyer l'an passé en deuxième ronde, ailier rapproché aussi. Mais à bien y penser, Meyer est plus traditionnel. Tu sais, c'est un ailier rapproché que tu mets au coin de ta ligne de mêlée, qui va très bien bloquer, tu sais, qui va courir les tracés un peu cochon au milieu. Brock Bowers, il va jouer surtout dans le slot, là, tu sais, c'est-à-dire receveur inséré. Il va faire toutes sortes de tracés. Tu sais, je pense que les deux peuvent très bien se compléter finalement. Puis je souligne aussi Jackson Powers Johnson, un choix de deuxième ronde, qui peut jouer centre, qui peut jouer garde. Ça, c'est clair que ça comble un besoin pour les Raiders. Donc, ne serait-ce que pour ces deux gars-là, bon draft.
Ils sont allés chercher un DB à Air Force.
Ouais, ça, c'est surprenant. Effectivement, Trey Taylor.
Ça peut être souvent que des joueurs de Air Force sont repêchés.
Non, effectivement, ben il y en a toujours un ou deux là à tout bout de champ, mais effectivement, que bonne observation, mon cher Jean-Luc.
Merci. Les Chargers, eux, avec leur nouveau coach, est-ce qu'ils ont déjà donné le ton avec le repêchage?
Ah, j'adore ce qu'ils ont fait. Ça, c'est dans mes classes que j'aime bien. Joe Alt, bloqueur, cinquième overall, ça, c'est typiquement Jim Harbaugh. On va construire par les fronts. Là, il s'est fait demander après la première ronde, vous trouviez pas que vous avez besoin de weapon en attaque? Il dit, pour moi, un joueur de ligne offensive, c'est un weapon. Fait que, tu sais, c'est typique Jim Harbaugh comme réponse, mais ça te montre où il voulait s'en aller. C'est important de protéger Justin Herbert. Puis, on a été chercher le receveur en deuxième ronde, Ladd McConkey de Georgia, un technicien. Vraiment, lui, j'ai hâte de le voir dans la NFL. Puis, je souligne un dernier nom, Kimani Vidal, porteur de ballon, 181e. Écoute... Lui, il pourrait prendre la balle rapidement. Là. Les Chargers ont Gus Edwards puis ont J.K. Dobbins dans le champ arrière. T'sais, on s'entend que c'est pas des gars qui ont prouvé qu'ils pouvaient être des chevaux, là, t'sais, qui transportent l'attaque. Kimani Vidal est un gros bonhomme. Hâte de le voir. Puis, ils ont repêché le fils de Jerry Rice. Oublie pas ça.
Ooh, Brandon
Rice. Fait que juste le mentionner comme ça, je sais pas ce que ça va donner dans la NFL. Peut-être qu'on n'entendra jamais parler de lui, mais quand même, c'est le fils du grand Jerry.
Les Rams s'en vont avec de la défense pour essayer de regarnir leur front avec des départs.
Ouais, les Rams, ce que je soulignerais, c'est Jared Verse, évidemment, en première ronde. Il était coté là, parmi, évidemment, les meilleurs edge. Il y a une place à gagner là, c'est certain. Moi, pour moi, c'était le besoin le plus important là, à combler chez les Rams. Donc, j'aime ce choix-là. Braden Fisk, le plaqueur en deuxième ronde. Tout un athlète. Là. Lui, il avait vraiment pété des scores au combine. C'est un gars là, qui va vraiment, je pense, qui peut être un bon complément à Kobe Turner qui ont repêché l'an passé et qui aurait pu facilement être recrue défensive de l'année. Un joueur, moi, qui m'intriguait beaucoup, 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 c'est le porteur de ballon Blake Corum de Michigan. Tu sais, je trouve ça de valeur qu'il atterrisse là parce que vraiment, là, les Rams ont l'air setés au poste de porteur de ballon. Tu sais, ils ont eu tellement une bonne production cette année de Williams. Mais Blake Corum, qui est vraiment un porteur de ballon que j'appréciais dans la NCAA, donc sait-on jamais là, s'il peut se faufiler dans la rotation.
OK, on s'en va à Miami. Est-ce que les Dolphins, avec le peu de capital qu'ils avaient, ont fait 7 choix, ont réussi à se tirer d'affaire?
Ben, le choix qui m'intrigue le plus, mais là, écoute, je sais pas qui va avoir le ballon dans ce backfield-là, mais c'est le porteur de ballon Jalen Wright, parce qu'encore une fois, McDaniel vise la vitesse, la vitesse et la vitesse. C'était probablement le porteur de ballon le plus explosif de cette QV-là. Tu sais, c'est vraiment une fixation à Miami, je trouve, la vitesse.
Ouais, mais
ça m'intrigue.
Comme, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais il était encore disponible en troisième round. C'est un peu, je pense, ça qui les ont forcés à le prendre. Il était sur leur liste, puis il était... Je pense que beaucoup d'équipes le voyaient comme le deuxième meilleur running back de la QV, qui soit disponible en troisième round.
C'est ça, rendu là, c'est une belle valeur, mais là, ça va-tu être lui, Achan? Je pense que les Dolphins ont vu que Achan peut être très utile, peut fitter parfaitement dans leur attaque, mais qu'il va avoir des bobos souvent. Là. Raheem Mostert, c'était très bon comme production, mais il rajeunit pas. Jeff Wilson ne sera pas là longtemps. Fait que c'est intéressant, honnêtement, comme choix, là, ça pourrait être un joueur qui explose ça dans la NFL. Chop Robinson, oui, mais tu sais, je trouvais, bon, je comprends la mentalité, tu sais, Bradley Chubb s'est blessé, Jalen Phillips s'est blessé, Chop Robinson arrive, puis il y a une place à gagner là dans le pass rush, c'est clair.
Mais j'ai joué des comparaisons avec Micah Parsons, c'est comme on se calme là.
Ouais, ça reste à voir, on sait jamais,
mais qu'il y a le même physique, le même style, il se promène sa ligne, puis
je me demande si ça aurait pas été mieux d'attaquer là, la ligne offensive en première ronde, mais là c'est une question de perception après ça. Tu sais, je pense pas que Chop Robinson va être un mauvais joueur. C'est plutôt une question de besoin dans l'évaluation que je fais.
On s'en va à Minnesota, mon cher, alors que tes Vikings ont... Écoute, j'ai compté presque 30 échanges pendant le repêchage cette année là. Dans 3 rondes, dans 7 rondes, c'est beaucoup. Puis les Vikings n'ont fait pas mal là-dedans.
Les Vikings n'ont fait 2 juste en première ronde. J.J. McCarthy, je pense que ce qui a attiré les Vikings, c'est les traits un peu, le genre leader, winner. C'est un gars que tu repêches basé sur des projections. Parce que J.J. McCarthy a pas été le gars qui traînait l'attaque de Michigan. Il a jamais eu besoin de le faire parce que c'était Blake Corum puis c'était la défense à Michigan. Fait que il y a un côté risque avec ça que je reconnais, mais ça fait du bien de voir un corps arrière qui a un CV de vraiment de gagnant, qui atterrit au Minnesota. Moi, je suis content personnellement. Est-ce que je suis biaisé parce que c'est mon équipe? Je le sais pas. Mais tu sors de la première ronde avec J.J. McCarthy, avec Dallas Turner qui était perçu là dans plusieurs cas comme le edge de cette QV-là. Puis t'as encore ton premier choix l'an prochain. Tu sais, t'as tradé up pour les deux gars, puis tu ressors de là avec ton choix de première ronde 2025. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. Puis un demi de coin sous-estimé qui ont été repêchés en quatrième ronde, Kyrie Jackson, que j'ai bien hâte de voir sur le terrain. Pour moi, les Vikings, je les mets dans la catégorie des bons drafts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord parce qu'ils aiment pas J.J. McCarthy, parce qu'ils trouvent qu'ils ont payé trop cher pour trader up de 23 à 17 pour Dallas Turner. Moi, ça me fait penser un peu au repêchage des Texans l'an passé, que tout le monde critiquait. Ouais, ils ont payé cher pour aller chercher Will Anderson en plus de CJ Stroud. Je pense pas qu'il le regrette
personne
aujourd'hui.
Personne qui dit ça. Mais t'es allé chercher un kicker. Tu t'en parles pas, hein?
T'es-tu obligé de mentionner ça?
OK, les Pats, eux, les rois pour repêcher des kickers. Ils ont commencé avec Drake May, mais ils ont double down avec Joe Milton de Third en passant dans le repêchage.
Le bazooka. Dit le bazooka pour son bras vraiment canon, mais c'est souvent c'était sa seule qualité. Mais écoute, est-ce que ça va être des 49ers? Est-ce qu'on va faire un Trey Lance / Brock Purdy d'eux-mêmes?
Ça serait drôle. Drake May, en tout cas, c'est peut-être que il va nous surprendre, mais il est pas polish, comme on dit.
Non, effectivement. Puis ils ont fait un aussi, si je me trompe pas, un double dip au niveau des receveurs. Ouais, Jalen Polk en deuxième ronde. Puis moi, c'est drôle parce que je préfère celui qu'ils ont pris en quatrième ronde, Javon Baker de UCF. Fait que, écoute ça, on pourra prendre des paris pour s'amuser. Lequel des deux qui va se développer, ou ni un ni l'autre, parce que dans le cas des Patriots, c'est jamais facile de développer des receveurs. Mais maintenant que Bill Belichick est plus là, peut-être que ça va fonctionner mieux de ce côté-là. Mais moi, je dirais là, quand même, les Pats s'en sortent bien. Tu sais, t'as ton corps arrière, tu sors de là avec deux receveurs. Je déteste pas ce qu'ils ont fait, là.
On s'en va avec les Saints qui, juste à cause de leur DB d'Alabama, devraient se mériter une bonne note, mais je te le laisse.
Kool-Aid McKinstry. Avouez que c'est un nom qui en jette. Kool-Aid McKinstry, moi j'adore ça. Il peut pas être bon ce gars-là. Mais c'est un gars pour vrai qui était coté première ronde. Il sort en deuxième ronde, 41 au total. Très, très bonne valeur. Taliese Fuaga, moi c'était dans mes joueurs de ligne offensive que je regardais le plus, parce que je te dirais pas là que j'ai fait du tape là, pendant des heures sur les joueurs de ligne offensive, ce serait mentir à nos auditeurs. Mais dans ce que j'ai regardé, c'est le gars que je trouvais le plus violent, là, qui renversait le plus de joueurs défensifs. Vraiment le fun à voir aller. S'il y en a un que vous aimeriez voir des extraits, c'est vraiment lui. Mais ce que je veux souligner, en cinquième ronde, Spencer Rattler, hey, wow, quelle belle valeur. C'est un gars, ça, qui était perçu il y a un an ou deux à peine comme un futur choix de première ronde.
Ah, ouais?
Il y a eu des petits problèmes. Oh oui, lui, il était à Oklahoma. Il s'est fait déclasser par un certain Caleb Williams. C'est ça son histoire, lui. Puis Caleb Williams a pris le poste. Puis Caleb Williams est ensuite allé à USC. Mais Spencer Rattler, lui, il avait plus de place à Oklahoma. Fait qu'il a transféré à South Carolina. Il a connu une saison quand même intéressante. Puis pour un talent comme ça, si tu le prends en première ronde, mais là, tu dis, ouais, ça marche plus. Là, le gars a pas donné ce qu'il devait donner comme potentiel talent de première ronde. Mais tu le ramasses dans la rue en cinquième ronde. Wow, moi, j'adore, parce que là, vraiment... t'as une chance de pouvoir le développer derrière Derek Carr. Très bon choix, ça.
Les Giants avaient seulement 6 choix. Est-ce qu'ils ont réussi à tirer le meilleur de ce qu'ils pouvaient avec ça?
Ouais, moi, j'aime ce qu'ils ont fait, particulièrement Malik Nabers. T'sais, tu donnes une chance ultime à Daniel Jones. Tyler Newbin en deuxième ronde, un safety. Un
safety en deuxième ronde, c'est pas à mode, ça, normalement.
C'est pas à mode, sauf quand t'as perdu Xavier McKinney. Faut pas que t'oublies ça. Là. Tu le perds sur le marché des agents libres. C'était ton safety là quand même assez important. Je dirais pas joueur vedette, mais un joueur important dans cette défense-là. Je pense que t'attaques un besoin qui est clair. Puis Theo Johnson, un tight end canadien de Penn State. Écoute, on sait pas trop ce qui se passe avec Darren Waller. Est-ce qu'il prend sa retraite? Est-ce qu'il continue? Il disait l'année passée, il a joué sur une patte toute l'année.
Est-ce qu'il trompe sa blonde?
Ouais. Il y a ça aussi. Fait qu'écoute, pour les raisons que je viens de te donner, moi, j'ai aimé ce que les Giants ont fait.
On s'en va. On reste à New York, en fait, avec les Jets qui ont fait un repêchage en espoir de voir leur joueur vedette Aaron Rodgers performer. Quoi qu'ils sont allés chercher Jordan Travis. Moi, je l'aime beaucoup, Jordan Travis.
Ben, avant de se blesser à Florida State, hey, c'était toute une histoire, Florida State, cette année. Puis t'as vu, quand il est tombé, ils ont plus été capables de gagner à peu près rien. Ils ont gagné leur fin de saison, mais c'était des matchs vraiment plates, pas d'attaque. Puis ils ont même pas été classés en série à cause de ça, parce que le comité des playoffs de la NCAA a jugé qu'ils vont se faire démolir. Puis c'est ce qui est arrivé dans leur bowl contre Georgia, d'ailleurs. Mais tout ça pour revenir au repêchage des Jets. Moi, je suis pas un grand fan de ce qu'ils ont fait personnellement. Orlu Fashanu en première ronde, c'est pas que c'est mauvais là, mais tu sais, je pense pas que c'était le bloqueur le mieux coté nécessairement. Après ça, tu regardes, moi j'ai pas aimé le fait qu'ils repêchent deux porteurs de ballon alors que leur champ arrière avec Breece Hall, je vois pas de problème là. Braylon Allen est très jeune, cela étant dit, là, c'est un porteur de Wisconsin qui a 20 ans, puis que les porteurs de Wisconsin, généralement, peuvent bien faire dans la NFL.
Ouais, mais là, il a joué un an, ou en tout cas, il a peut-être pas joué un an, mais je veux dire...
Fait que c'est... Bon, moi, ans. Les Jets, c'est ça. Fâché à nous, je comprends le besoin, là, parce que t'as Tyron Smith qui rajeunit pas, t'as Morgan Moses qui rajeunit pas... Fallait attaquer ce problème-là, mais est-ce que c'était lui le gars à prendre? Pas pour moi, mais là, après, c'est des questions d'évaluation personnelle.
Bon, là, j'ai vu que les Eagles avaient vraiment eu un des excellents drafts cette année. J'essaie de relire ce qu'ils ont fait. Dis-moi ce que je manque, parce que moi, je vois pas un excellent draft cette année.
Excellent, peut-être pas, moi non plus. Un bon draft. Quinion Mitchell, on en parlait tantôt rapidement, un demi de coin très athlétique.
Ça m'a l'air d'une personnalité un peu limite, le Quinion Mitchell.
C'était spécial quand ils l'ont repêché, hey, t'as-tu remarqué?
Il avait l'air de pas vouloir y aller.
Et qu'il avait l'air de s'en aller dans un salon funéraire, là, honnêtement. Là, mais écoute, ça veut rien dire. Peut-être que sur le terrain, il va être dominant, tu sais, mais il avait vraiment pas l'air heureux.
Il était focus.
Cooper DeJean en deuxième ronde, moi, c'est là que vraiment, c'est
Cooper
leur choix que j'aime.
DeJean.
C'est parfait comme nom, mais c'est un gars très polyvalent. Il peut jouer safety, il peut jouer corner à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai hâte de voir comment les Eagles vont l'utiliser, mais tu sais, ça peut être un couteau suisse. Puis sinon, ben, je veux juste souligner, on parlait de fils de légende tantôt.
Jeremy
ils ont
Trotter,
repêché.
Jeremy Trotter.
Et voilà, le oui, secondeur. Cool. Lui, il est dans le membre du temple de la renommée des Eagles, le père. Fait que de repêcher le fils, puis là, c'est le propriétaire cool. Était émotif. Tout.
C'était,
ouais, c'était
cool,
beau,
c'était ça, beau. C'était un beau moment. Les Steelers,
Les Steelers, ben, il n'y a pas de grand coup, mais faute à nous... 20e overall, un bloqueur. Puis je pense que les Steelers travaillent activement sur leur ligne à l'attaque depuis 2 ans, puis c'est bien. Là, tu veux donner une chance.
Tu vas me dire que je pense juste à l'attaque, mais s'il y avait besoin d'un wide receiver, pourquoi ils ont entendu en 4e ronde ou 3e ronde?
C'est pourquoi? Parce que les Steelers, là, ils ont jamais historiquement eu de problème à développer des receveurs pris tardivement. Là.
Mais là,
ils se sont
pas dire
toujours
ça,
tirés d'affaires.
Ouais.
Moi, je déteste pas honnêtement cette stratégie-là du côté de Pittsburgh en repêchant Roman Wilson en 3e ronde. Puis je souligne juste Peyton Wilson, un secondaire de NC State. Lui, il serait sorti plus tôt. Il a glissé aux Steelers parce qu'il est souvent blessé, mais lorsqu'il est sur le terrain, c'est un gars qui a beaucoup de talent. On le sait à quel point les Steelers, historiquement, c'est une équipe qui mise beaucoup sur ses secondaires intérieurs. C'est un nom que je vais surveiller. Peyton Wilson.
Les 49ers, beaucoup de choix quand même pour une équipe. Là. Il y avait 8 choix repêchage pour une équipe là, qui a pas beaucoup bougé. Qu'est-ce que t'en penses?
Ils ont surpris les Niners en première ronde en prenant un receveur, Ricky Purcell. Je pense qu'il va être excellent. Faut savoir aussi que les Niners, là, en ce moment, tu sais, ça parle fort. Le Brandon Ayuk qui pourrait être échangé.
Ouais.
Il y a même d'autres insiders qui disent non, Ayuk est plus jeune, on va le signer à long terme, c'est Deebo Samuel qui pourrait être échangé. Ça va être des rumeurs à surveiller là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, je pense que c'est pas pour rien qu'on a repêché Purcell. C'était peut-être en prévision d'eux. Sinon, écoute, il n'y a pas même de place pour un porteur de ballon derrière Christian McCaffrey, mais Isaac Garendo de Louisville. C'est un joueur que plusieurs observateurs appréciaient, mais je trouve cette année que pour les fantasy, là, les porteurs de ballon sont mal tombés. La plupart sont tombés dans des situations où il y en a déjà une autre vedette devant. C'est de valeur, là, mais bon, je souligne quand même ce nom-là.
Les Seahawks qui s'en tirent bien parce qu'ils ont... Comment je dirais ça? Ils sont allés chercher des joueurs où il y avait des trous, là.
Ouais, eh ben, Byron en fait, Murphy, c'est pas le temps qu'il y avait un trou.
Mais j'allais dire, c'est ça. C'est, vas-y, je te laisse aller. Puis je
Byron Murphy, rendu là, 16 overall, c'est qu'il y en a plusieurs qui le percevaient comme un talent extraordinaire, un plaqueur. Il y avait pas tant de trous là de côté ligne défensive, les Seahawks, mais rendu là, tu te dis un talent comme ça, on est au milieu de la première ronde, on y va, on va trouver une façon de le faire fonctionner puis élever notre front défensif. Mais c'était pas nécessairement le plus grand besoin. Moi, les Seahawks, c'est pas dans les repêchages que j'ai adoré là, personnellement. Là, il y a pas grand-chose qui me fait capoter dans les gars qui ont un repêché.
OK, bon, poursuivons. On s'en va à Tampa Bay. Commençons avec leur choix de première ronde, un joueur de centre. Pas comme au hockey.
Ouais, c'est ça, c'est pas un centre de premier trio. Non, mais Graham Barton, tu sais, il y a clairement un besoin là à l'intérieur de la ligne offensive des box. Moi, j'aime ce joueur-là parce que on dit centre, mais il peut très bien jouer garde aussi. Je pense qu'il a même de l'expérience en masse comme bloqueur. Chris Braswell, en deuxième ronde, un gars d'Alabama, un edge, ça peut toujours aider. C'est des gars, je trouve, quand ils ont joué dans des programmes comme ça, j'ai tendance à faire plus confiance au niveau de la NFL. Puis les box, ben ça fait une couple d'années là, qu'ils essaient avec Tryon Smith, avec c'est qui ont pris l'an passé, Logan Hall, je pense. T'sais, on a de la misère à régénérer le pass rush depuis les belles années de Shaq Barrett. Fait que ça, c'est un joueur là, que je surveillerais de leur côté. Je dirais correct là, comme draft, mais sans plus.
Les Titans?
Les Titans, ben moi, j'aime ça. J.C. Latham, encore, je parle d'un gars d'Alabama, un bloqueur d'Alabama. Puis ce que j'aime avec les Titans, il tombe avec Bill Callahan sur la ligne à l'attaque, qui, lui, est le gourou des coachs de ligne à l'attaque. Donc, quand tu repêches un bloqueur en première ronde avec Callahan à bord, t'as des maudites bonnes chances qu'il soit très bien formé puis qu'il y ait de bons résultats. Sinon, ben écoute, Tavondre Sweat, un plaqueur en deuxième ronde, belle valeur pour le mettre à côté de Jeffrey Simmons, là, ça peut faire des flamèches. Mais c'est pas mal tout ce que je vois qui m'intéresse du côté des Titans.
On finit avec les Commanders de Washington qui, on sait, sont allés chercher avec le deuxième choix repêchage leur carrière, ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres acquisitions qui vont te surprendre?
Jaden Daniels, ça va être tout ou rien là du côté de Washington. C'est vraiment pas une valeur sûre.
Jerzon Newton, là, c'était pas mal. Là. En tout cas, dans les experts, là, avec les Eagles, Washington avait vraiment une bonne cote en général.
Ouais, ben moi, ce que j'aime, c'est Daniels, oui, mais j'aime surtout après Jerzon Newton, un plaqueur. Ça, c'est vraiment excellent. Il y en a beaucoup qui le voyaient comme un choix de première ronde. Mike Sainristall, un demi-défensif. Moi, je l'aime beaucoup. Lui, j'ai vu souvent Michigan cette année. C'est un gars qui se promène partout sur le terrain. Une excellente tête de football. Lui, je pense qu'il va faire du bruit. Puis Ben Sinnott, un ailier rapproché. Je te parlais de Cade Stover tantôt. Tu sais, pour moi, là, c'était pas mal. Brock Bowers, Ben Sinnott et Cade Stover là, dans pas mal le top 3 des ailiers rapprochés. Donc, ça donne une occasion de plus. Puis on souligne aussi que les Commanders ont pris le frère de Christian McCaffrey, Luke McCaffrey, qui est un receveur de passe. Donc, hâte de le voir aller lui aussi.
C'est ce qui conclut notre analyse du draft équipe par équipe. T'as presque réussi à te capsuler, mais c'était très bien, comme d'habitude, Steph.
C'est un bon tour d'horizon, ça.
On fait une pause, on se retrouve après pour les questions du public. Bougez pas.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadaret. Allô? OK.
Bonjour.
On commence avec le sifflette parce que c'est la période de questions, mon cher Steph.
Yes, on est prêt.
On va commencer par la question de M. Roussovski, un de nos fidèles auditeurs, et qui pose la question sur ce qui a été le talk of the town après le repêchage. Que pensez-vous de la stratégie des Falcons après l'embauche de Kirk Cousins de prendre un choix top 10 pour un QB, mais qui a du potentiel, mais qui est déjà plutôt âgé? C'est vrai, Michael Penix, il n'y a pas 21 ans.
Ouais.
Et le fait d'apprendre derrière un vétéran pendant quelques saisons. Écoute, j'en ai vu de toutes les couleurs dans les analyses. Il y a du monde qui pense que c'est le pire move qu'ils ont vu de leur histoire d'analyste. Il y en a d'autres qui pensent que dans 2 ans, il va être prêt, il va être bon. C'est de toute façon le nombre d'années garanties que Kirk Cousins. Mais moi, je veux ton analyse, Steph.
Ben, moi, la clé dans la question de notre ami Roussovski, c'est choix top 10. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah, regardez les Packers, ils l'ont fait 2 fois, puis c'est une stratégie qui fonctionne. Ce qui était différent du côté des Packers, c'est qu'ils ont pris Rodgers quand il y avait Brett Favre avec le 25e choix, quelque chose comme ça. Puis ils ont pris Jordan Love quand il y avait Rodgers avec le 26e choix. Là, les Falcons sont 8e. Ils ont l'occasion vraiment de repêcher un joueur qui peut faire une énorme différence. Si tu tiens à Penix, est-ce que tu devrais pas te reculer, accumuler des choix? Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais les Raiders l'auraient pris, les Broncos l'auraient peut-être pris. » Je le sais, ça se peut. Moi, personnellement, écoute, tu viens d'investir autant en Kirk Cousins, c'est que tu penses que c'est le corps arrière qui peut t'amener à terre promise ou en tout cas très proche. Essaie vraiment de l'entourer de toutes les munitions imaginables, que ce soit en attaque, en défense, peu importe. Là, mais moi, personnellement, je le comprends pas, le move. Je sais qu'il y en a qui disent aussi, ouais, mais avec Cousins, justement, les Falcons repêcheront pas dans le top 10 là, pendant les prochaines années. Aussi bien frapper maintenant pour le corps arrière. Moi, je le vois pas comme ça, personnellement. Là, je sais pas toi, Jean-Nic, mais moi, ça me rentre pas dans la tête.
Avec tout ce qui se passe dans une pré-saison, dans une saison, si t'es un bon joueur, tu y crois, tu le prends, là. T'sais, Kirk Cousins, il va-tu retrouver la forme qu'il avait avant d'être blessé? Il a 36 ans. Écoute, si on va le voir, si Michael Penix il fait des flamèches, ils n'auront que Cousins sur le banc comme police d'assurance dans 2 ans. Non, mais tu sais, ouais. On poursuit avec Danny qui dit « Salut les boys, pouvez-vous me donner votre analyse de Xavier Worthy repêché par les Chiefs? Bien hâte de vous écouter cette semaine. Ben nous voici, mon cher Danny. »
OK, ben je vais y aller quand même vite parce qu'on en a parlé pas mal de Worthy tantôt, mais tu sais, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est pas juste le gars qui a une vitesse folle sur un go, là, sur un tracé au fond du terrain. Il peut faire plusieurs tracés, il y a des bons changements de direction, il y a une accélération qui est vraiment phénoménale. Le bémol dans son cas, on va le répéter, 165 livres.
Hugo, espérons que votre repêchage de NFL s'est déroulé comme vous vouliez. Pas trop sûr de comprendre la stratégie des Bills.
Ben j'imagine qu'Hugo fait allusion au fait qu'ils sont sortis de la première ronde, qu'ils ont reculé. Il y en a plusieurs qui disaient les Bills vont s'avancer pour aller chercher un des top receveurs, mais eux autres, fort probablement, qui ciblaient Keon Coleman de toute façon. Ils se sont dit que Keon Coleman n'a pas nécessairement la cote en première ronde. Moi, j'ai pas détesté ce qu'ils ont fait, au contraire. T'accumules quelques choix, quelques éléments. Puis faut pas oublier une chose, les Bills ont perdu plusieurs joueurs là sur le marché des joueurs autonomes, sans parler de reconstruction. Tu sais, c'est une équipe qui devait combler plusieurs trous. Fait que quand tu peux accumuler du capital comme ça, moi je vois pas de problème dans leur situation.
Alexis, si on ne prend pas en compte les QB, quel est le top 3 des joueurs qui vont laisser leur marque dès leur première saison?
OK, je me lance. Marvin Harrison Jr., ça, c'est vraiment pas une grosse surprise. Là, je pense qu'il va faire exactement ce qu'on prédit de lui. Grosse, grosse saison dès son année recrue. Je vous en ai glissé un mot tantôt. Audric Estime à Denver, porteur de ballon. Je pense que dans la cuvée de cette année, c'est peut-être lui qui est le mieux tombé,
ah oui,
qui va le plus faire sa marque. Ouais. Et je voulais y aller avec un porteur de ballon, un receveur, puis un joueur défensif. Et c'est là que je vais avoir l'air du gars qui prêche pour sa paroisse. Dallas Turner à Minnesota. Très bonne saison.
Pierre nous dit, est-ce que Chicago va jouer dès cette année en haut de 500 et que se passe-t-il à Dallas?
Que se passe-t-il à Dallas? Ben écoute, je comprends pas moi non plus. On n'a pas l'impression que l'équipe était pas si loin du but l'an passé. Puis on a l'impression que c'est sur le cruise control plutôt que, écoute, on va peser sur le gaz, puis on va être agressif, puis on va aller chercher les petits morceaux ici et là qui nous manquent. Comme on a pu voir dans les dernières années, les Bengals ont fait des gros moves, les Chiefs, les Bills, les Dolphins, je dirais. Il y a plusieurs équipes là, qui se sont battues pour vraiment là, aller chercher la petite coche de plus. Pis on a l'impression que les Cowboys font comme, bah, ça va bien, on approchait, puis on va voir. Pis, non, ça, j'aime vraiment pas ça non plus, je me l'explique pas. Puis les Bears, oui, rapidement, moi, je pense qu'ils peuvent jouer en haut de 500. Ils ont fini 7-10 l'année passée, puis oubliez pas, il y a eu des blessures au poste de corps. Tu sais, c'était inconstant. Justin Fields, Tyson Bagent. Là, t'as un corps arrière plus stable, je pense, qui va s'amener. Il manquait de receveurs. On a clairement amélioré cette lacune-là. Pour moi, les Bears deviennent candidats sérieux pour les playoffs.
Simon qui nous dit, j'ai adoré la stratégie des Falcons. Prendre le temps de développer et une bonne assurance au cas. Mais un top 10, c'est cher quand même, considérant qu'environ 50% sont des top 10, des top 10 sont des flops.
Ben, ouais, je comprends cette vision-là. Mais le problème dans l'expression prendre le temps de développer, c'est que ton corps arrière vient d'avoir 24 ans ou il va l'avoir cette semaine. Ça veut dire qu'après les garanties de Kirk Cousins, il va tomber à 26. Là, tu lui donnes une saison, mettons, là, à la Jordan Love pour commencer à s'adapter tout. Tu veux dire qu'il va être vraiment bon à partir de 27 dans le meilleur des scénarios. Puis là, son deuxième contrat va tomber à 29. C'est là que j'ai un petit problème avec la notion de prendre le temps de développer,
si bon,
alors qu'un corps arrière comme ça, pour moi, il y a une certaine urgence.
Ouais,
oublions pas que Penix a un historique médical important. Là. Ça, on n'en parle pas depuis tantôt dans le débat. C'est un gars qui a eu plusieurs blessures importantes qui ont coupé là, quelques saisons. Est-ce que c'est pas parce qu'un gars s'est blessé qu'il va toujours se blesser, mais t'as pas le choix de le considérer dans l'évaluation.
Parce que Kirk Cousins aussi s'est blessé. Là. C'est ça aussi qui est dans l'équation.
Oui, effectivement, les Falcons, je comprends, ils veulent pas revivre une situation à la Desmond Ridder, Tyler Heinicke, Marcus Mariota. Tu sais, ça a pas été des belles années. Je le comprends. Je pense que c'était comme, OK, on attaque vraiment ce problème-là. Je peux respecter ça. Je me demande si, avec l'âge de Penix, puis le rang où ils l'ont pris, c'était la chose à faire.
Nicolas nous dit, pensez-vous que les Bengals vont faire jouer Mims à l'intérieur cette saison pour lui donner de l'expérience NFL? Lui qui n'a pas joué énormément en NCAA, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, moi je pense plus qu'ils vont le laisser derrière Trent Brown une saison. Trent Brown, ça a été l'acquisition là, sur le marché des agents libres pour les Bengals. On sait que t'as Orlando Brown qui est le bloqueur à gauche, qui est quand même bien enclenché là. Mais Trent Brown, c'est une solution à très court terme, qui peut se blesser aussi. Là, tu te retrouves avec Mims dans la mêlée plus rapidement que prévu. Mais je pense là effectivement que la stratégie va
pas
plus
comme
d'être... Non, je pense pas. Puis tu sais, ils sont pas mal placés là, les Bengals en ce moment en termes de garde personnellement. Fait que je pense que ça va être, on apprend sur le banc un peu, puis on va arriver éventuellement d'en mêler après Trent Brown.
Tommy qui nous dit, entre Xavier Worthy et Keon Coleman, qui a gagné l'échange entre les Bills et les Chiefs? Parce que les Bills ont tradé pour laisser passer les Chiefs en avant d'eux.
Ouais, c'est ça. C'est dur de dire qui a gagné pour l'instant. Mais tu sais, moi, comme je disais tantôt, quand les Bills peuvent accumuler quelques choix, vu les trous qu'il y avait soudainement dans leur alignement, pourquoi pas? Worthy est un nom qui est clairement plus le flashy, là. Tu sais, on dirait que tu dis parce qu'il est rapide, parce qu'il court le 40 verges en 4.2 secondes, tu sais, c'est big, mais ça veut pas dire qu'à long terme, il va être meilleur que Coleman pour autant. Il y a pas juste la vitesse dans la vie. Mais Coleman, la seule question, comme je le mentionnais tantôt, c'est est-ce qu'il va être capable de vraiment se démarquer de ses demi de coin? Mais c'est un gars qui peut être très physique, qui va en imposer. Puis je pense que Josh Allen va trouver une façon de le faire fonctionner.
Et quelle personnalité, moi je l'adore.
Et voilà.
Eric, je ne comprends pas que les Niners n'ont pas repêché un O-line qui est leur faiblesse. Je sais bien qu'ils vont se départir de Ayuk, mais pas de là à négliger cette faiblesse. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ben moi je leur mettais un O-line dans mon mock draft, mais tous ceux là qu'on voyait sortir en première ronde sont pas mal sortis. Il n'y a pas eu de surprise majeure là, du côté des O-line, puis ils sont tous sortis. Les Niners parlaient quoi? 31. Est-ce qu'ils se sont dit, ben là, faut quand même y aller avec un O-line en première ronde? Non, tu sais, ils ont été avec Purcell en prévision, comme je le disais, d'un échange éventuellement tantôt. Mais là, après, est-ce que les Niners ont drafté plus tard dans le repêchage un O-line? Ouais, ils ont repêché Dominic Pioney, qui est un garde, Jared Kingston, qui est un plaqueur, mais beaucoup plus tard. Effectivement, là, qui aurait pu attaquer peut-être ce problème-là un peu plus tôt, mais je comprends quand même la stratégie en première ronde là, d'opter pour une autre position.
C'est terminé pour la période des questions, Steph. On vous invite à communiquer avec nous si vous le voulez. Vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire partie de notre groupe, les Nos Précieux Conseils de Fantasy Football, là, qui va reprendre un peu de vie après la pause. Mais vous pouvez quand même participer, vous pouvez nous poser des questions pendant la saison morte, puis vous pouvez partir des sujets, ça nous fait plaisir d'en débattre avec vous. Mm-hmm. Vous pouvez aussi donc nous interpeller sur des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, j'ai dit, mais vous pouvez aussi nous écrire par courriel à quelle adresse, Steph?
La zone payante à commercialquebecormedia.com.
Merci, Steph. Tantôt, tu m'as dit, j'aurais une dernière, parce qu'il n'y aura pas de bar cette semaine, pas de bar.
Ouais.
On est en pause, les terrasses sont pas encore ouvertes.
Non, donc, ça s'en vient. Comment ça faire
pour l'instant, mais tu m'as dit j'ai de quoi pour toi en fin d'émission.
Ah, juste un petit quickie là, parce que je trouve ça plate. Si j'envoyais quelqu'un au bar cette semaine, c'est les fameux insiders de la NFL qui font très très bien leur travail, je dois le dire là, mais pendant le draft, nous notre trip comme fan, c'est de regarder ça, de se dire qui va être repêché. Puis là, il y en a tout le temps un ou deux qui peut pas résister à l'envie de dire « Hey, savez-vous quoi? Les Bills s'approchent puis ils vont prendre tel joueur. Puis savez-vous quoi? Les Falcons, c'est lui qui repêche. » C'est-tu obligatoire? Un événement télévisuel comme ça, c'est un peu long par moment. Ça se déroule quand même lentement, le repêchage. Le gros trip qu'on a, c'est de découvrir en même temps que tout le monde qui va repêcher qui. Puis finalement, ben il y a tout le temps un insider plus smart que les autres qui va écrire sur Twitter. Bon, ben là, c'est tel pic qui s'en vient. Je trouve ça plate. Il faisait beaucoup avant, il faisait presque plus depuis dans les dernières années. Il y avait comme eu un genre de consensus où, OK, c'est pas le moment là de montrer nos talents d'informateur. Puis là, ouais, ça recommence un peu cette année. Moi, c'est au point qu'à un moment donné, au milieu où... Je sais plus trop quand, là, mais en première ronde, j'ai fermé ça. J'ai regardé juste à la télé parce que ça m'énerve. C'est pas le moment de faire ça. C'est juste ça que je voulais dire, Jean-Nic.
Bon, ben moi, en tout cas, là, je suis un fan. Là, j'adore regarder les vidéos, les reels qui mettent en vedette des joueurs qui sont assis chez eux avec toute leur famille puis qui reçoivent l'appel.
Ouais.
C'est vraiment cool. Ça, là, continuez de vous filmer. C'est le fun de voir l'émotion des gros gars.
Ah oui, mais...
Avec la famille autour, puis ça crie, puis ça, c'est vraiment des beaux moments. Puis quand ils donnent le nom...
Sauf Quinion Mitchell.
Lui, il était dans le green room, au moins. Là,
ça en allait à l'abattoir, lui.
Quand ils sont chez eux, puis ils sont bien entourés, moi, je trouve ça cool. Puis les équipes aussi qui mettent les appels, qui font... Je trouve que c'est vraiment du bon insight, là. Merci Steph, merci à vous d'avoir été là encore cette semaine pour cette édition spéciale de la zone payante sur le repêchage. Et on se retrouve lors d'un prochain épisode plus tard cette année. Merci et à bientôt.